Tentative de définition ou de comparaison, la chanson est un canif de poche, le roman un service complet, dit-il.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
De vive voix.
Pascal Paradou.
Roman et album, quelle que soit la temporalité d'écriture, le chanteur Bertrand Belin publie son troisième roman, Grand Carnivore, et l'écrivain Bertrand Belin sort son sixième album, Persona. Goût de l'ellipse, de la rareté, de la tension et de l'attention aux humains, des mots et de leur musique. Bonjour Bertrand Belin.
Bonjour.
Cette double actualité vous rend-elle un peu schizophrène ou c'est une même chose, le roman et la chanson ?
Non, bien sûr, ce n'est pas une même chose. Ça demande des implications de nature assez différentes, quand même. Mais de là à parler de schizophrénie, j'en irai pas jusque là, quand même. Il y a un besoin de s'exprimer, bien sûr, et la nécessité des tentatives d'élucidation de la complexité du monde qui m'entoure, et qui sont menées à la fois par le registre de l'émotion, comme dans la chanson. De la situation, de l'émotion, et puis sous un aspect un peu plus, réflexif, sur le long cours du roman, quoi. Donc de la réflexion d'un côté, de l'impression de l'autre.
Mais des mots, dans tous les cas, vous savez d'où vous vient ce goût des mots ?
Non, je ne sais pas.
Vous étiez bon à l'école ?
Non, j'étais pas un très bon élève. Bah, c'est surtout j'étais un élève qui faisait rien du tout, quoi. Mais j'étais ce qu'on appelle un élève moyen qui pourrait faire mieux, quoi. Voilà, mais je faisais rien du tout. Je vivais un peu sur mes acquis, quoi. Je faisais pas mes devoirs. Je me débrouillais en classe. Moi, j'ai réussi à faire tant bien que mal un petit parcours jusqu'à avoir à obtenir un BEP d'électricien. Vous voyez, j'ai pas fait d'études supérieures. Mais voilà, j'étais pas un élève passionné. Je détestais l'école. J'y allais parce que j'étais obligé.
Et vous n'étiez même pas lecteur de romans.
À l'adolescence, non. J'ai commencé à lire à peu près vers l'âge de 16 ans, 17 ans. Voilà. Avant, non, j'avais jamais ouvert un livre. Pardon ? Qu'est-ce que je disais ?
À 16 ans, 17 ans.
À 16 ans, 17 ans, j'ai lu les poètes qui avaient, si on peut dire, pignon sur rue, sans enlever à rien leur talent ni leur génie, mais que sont Baudelaire, Rimbaud, les grands poètes, disons, de patrimoine, quoi. Voilà, et puis... l'adolescence est-ce qu'elle a de particulièrement parfois ténébreuse conduit aussi à cette époque-là les adolescents comme moi à lire Lautréamont des textes où qui circulent presque un peu sous le manteau pour nous d'un autre âge qui dont on dit qu'ils sont gorgés de secrets et d'enseignements, quoi.
Oui, c'est un peu la face sombre de la littérature. Alors revenons quelques secondes, Bertrand Belin, sur votre définition de la chanson comme canif. Vous n'en faites pas un art mineur pour autant.
C'est pas à moi de choisir de faire de la chanson en art mineur ou pas. Chacun fait bien comme il veut. Non, pas du tout. Non, c'est de la coutellerie comme n'importe quelle autre coutellerie. Non, ce que je veux expliquer par là, ce que je veux signifier par là, c'est l'aspect miniature, si on veut, de l'expression écrite, la chanson.
Avec quelque chose d'incisif.
Oui, il faut que ce soit, il faut que ce soit, qu'il y ait quelque chose qui ait à voir. C'est un mot vilain, mais avec une certaine efficacité dans le transport des émotions. Parce que si une chanson, ça dure 3 minutes, qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on a à dire? Comment le dire? Bon, la musique, en plus, parle, elle donne des informations en termes de d'humeur, joyeuse, mélancolique, rythmée, voilà. Donc, il y a des tas de choses à prendre en considération. Une chanson, c'est très court, c'est souvent très court, quoi. Même les très anciennes chansons sont courtes.
Est-ce qu'on pourrait dire que vos chansons, Bertrand Belin, sont comme des visions flash, des visions comme ça très très rapides, des scènes très épurées où il y aurait quelques traits de dessin seulement pour permettre l'imagination aussi à l'auditeur de se faire la scène.
Oui, 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 bien sûr, bien sûr. On pourrait dire ça, en vous écoutant, je pense à Sampé, par exemple. Mmh. Bien sûr, Sampé apporte un regard très tendre, et parfois une certaine ironie, c'est même parfois, pourquoi pas, un certain agacement, mais souvent très tendre sur le ce à quoi les gens s'adonnent, quoi. Quelqu'un qui attend son bus, ou des choses très très simples, de rien du tout, et il les décide en deux, trois traits. Bon, moi, je me retrouve très bien dans cet art de la voilà, du peu de traits comme ça. Mais c'est vrai.
Avec un goût de l'ellipse aussi, quand même, de ce qui est rare, de ce qui est tu, même.
Oui, oui, bah, c'est le cas de Sampé. Je sais pas pourquoi c'est la première fois que me vient ce parallèle, mais il me semble tout à fait évident aujourd'hui. Bien sûr, sauf que moi, j'y mets peut-être un petit peu moins de, voilà, de joie, peut-être.
Oui, vous êtes un peu plus sombre. Vous
oui, avez, oui, c'est pour ça que
vos albums s'appellent Hyper Nuit, c'est peut-être pas pour rien.
Bon, des précédents. Ouais, bah, une Hyper Nuit, ça commence à faire beaucoup, c'est vrai.
Est-ce que vous êtes un contemplatif, Bertrand Belin? Dans la vie ou face à la page.
Un contemplatif, vous voulez dire par là qu'il s'opposerait à un homme d'action, par exemple?
Exactement.
Non,
un homme qui aime regarder.
Oui, j'aime regarder, mais c'est pas ce que je préfère. J'ai besoin de temps, oui, c'est vrai, j'ai besoin de temps. C'est vrai que le métier de musicien me permet d'avoir souvent plus de temps, un temps d'observation peut-être que bien des gens qui vivent des situations de travail peut-être plus pénibles et plus prenantes en point de vue des horaires. Mais de là à dire que je suis contemplatif, non. Je contemplatif, ça induit un certain calme, je trouve. Quand on dit quelqu'un de contemplatif, on pense tout de suite à quelqu'un qui est posé calmement dans un endroit, observer le monde. Non, moi je suis en permanent remous, quoi. Ça gigote de partout, quoi. Je suis jamais calme.
Des rocks. Un contemplatif rock.
Ah ouais, rock, ouais, ouais, je sais pas, moi plutôt.
Je me lance.
Ouais, ce genre-là. Ouais.
Bertrand Belin, des mots, des hommes et des bêtes. Grand-Duc, extrait de votre nouvel album Bertrand Belin. Donc vous rentrez dans cette chanson dans la peau de ce hibou majestueux. C'est de la fiction ou c'est comme ça une impression, un sentiment que vous avez ressenti de nuit en vous promenant dans la forêt?
Non, ça n'a pas grand-chose à voir avec le hibou. C'est simplement si on entend la phrase que je prononce à la fin de la chanson, c'est « je vois comme un grand-duc dans la forêt lointaine ». Ça veut dire que je suis un grand-duc, mais je vois comme un grand-duc. Non, c'est plutôt, je sais pas, l'idée que je me fais du point de vue que pourrait être celui d'une personne, d'une femme, d'un homme qui se trouve dans une situation de péril dans la grande ville à chercher un endroit où dormir et qui voit la société dans laquelle on vit, mais qui la voit depuis un point de vue très très étonnant, c'est celui d'avoir le cul par terre, quoi. Et donc qui voit passer à un mètre de son regard des pieds, des genoux, des parapluies, voilà, et qui depuis ce point de vue se construit probablement une lecture du monde à laquelle il faudrait qu'on apporte une certaine attention, parce que il est difficile de se voir soi-même. De s'extraire de la société, mais il y a là des gens qui sont dans un péril immense et qui ont beaucoup de choses à nous apprendre.
C'est toute la qualité de cet album que de parler, de donner à entendre et à donner à voir des personnes qu'on ne rencontre pas forcément dans la littérature, dans la musique, mais que l'on rencontre à peu près tous les jours dans la ville. Mais pour rester sur cette idée de grand-duc et d'animal, étrangement, on rencontre des hiboux et des chouettes aussi dans votre roman Grand Carnivore, où il y a beaucoup d'animaux, et j'ai l'impression que les animaux sont autour de vous, avec vous, dans ces deux œuvres, roman et album.
Mais les animaux sont bien autour de nous, ils sont autour de vous aussi, mon cher monsieur. Ils sont là, qui guettent, qui attendent un petit peu qu'on ait fini nos conneries pour reprendre un petit peu leur territoire, probablement. Je me fais pas trop d'illusions sur la difficulté qu'ils vont avoir à le faire, mais j'ai bon espoir que cela arrive. Je suis pas là en train de défendre la cause animale va de soi. Mais c'est sûr que puisqu'on peut pas toujours s'en remettre aux autres membres de l'espèce pour obtenir des réponses sur les questions existentielles qu'on se pose, on peut se tourner vers les animaux, peut-être ont-ils beaucoup de choses à nous apprendre aussi. Donc voilà, je pensais l'autre jour à la présence des nombreux oiseaux dans mon disque, des hiboux, des pigeons, des choucas et autres grands-ducs. Bon, j'avais pas vraiment fait attention à leur présence en si grand nombre, mais je sais pas, je me suis dit, tiens, mais c'est peut-être des témoins intermédiaires entre le ciel et la terre, quoi. Ils sont un petit peu moins plaqués au sol que nous, sont un peu moins contraints par la pesanteur, ils sont un peu moins écrasés, quoi, ou écrasants comme nous le sommes. Et donc, ils sont là comme un peu des anges intermédiaires.
Et ce sont des animaux qui ont des visions, qui voient la nuit. Donc, oui, ils permettent de voir dans nos ténèbres, peut-être aussi.
Ah, bah, c'est certain. Le hibou, on cite pas, le hibou, il est pas convoqué comme ça au hasard. J'ai pas eu besoin d'aller très très loin pour que le hibou s'impose à moi, parce que je pense qu'il fait partie du bestiaire et de la mythologie des hommes, ouais, bien sûr.
Alors, des oiseaux, des hiboux, des chouettes, des grands-ducs dans votre album, et puis dans votre roman, puisque roman il y a, Grand Carnivore, des tigres ou des lions. On ne sait pas exactement. Un cirque arrive dans une ville et tout d'un coup, le valet de cage a laissé la porte ouverte. Ou le croit-il, le croit-on, lui dit-on, et les fauves sont dans la ville. Ça, c'est le fil narratif. Mais en fait, c'est un roman sur la peur. C'est une histoire de peur que vous racontez.
Oui, c'est une histoire de c'est la chronique de la crue d'une panique qui va prendre dans la population d'une ville et d'un pays. Oui.
Verra-t-on les lions ou les tigres ?
Il faudrait lire le livre pour ça.
Oui, j'hésitais à donner la réponse.
Ah, bon, je ne comptais pas sur moi pour la donner, mais enfin, oh, c'est pas vraiment... ça fait probablement partie des moyens de produire un plaisir de lecture, le suspense, certain suspense. Voilà, mais bon, en dehors des questions de suspense, c'est un livre aussi qui aborde des questions qui sont aussi des obsessions qu'on retrouve aussi dans mes chansons sur la question de la verticalité de la société, quoi.
Oui, parce que c'est aussi l'histoire. Donc il y a ces fauves dans la ville, mais il y a aussi l'histoire de deux frères qui se détestent. L'un est peintre et l'autre directeur. J'adore ce titre. Directeur des entreprises de boulons, ressorts et roues dentées. Et vous rajoutez d'ailleurs quelques qualificatifs au fur et à mesure.
Il est récemment promu.
Il est récemment promu. Oui.
C'est ça l'information. transformation capitale, je pense.
Et il déteste la peinture de son cadet, et c'est une tête à claque.
Oh,
il
ouais,
est totalement détestable.
Ouais, j'ai créé un personnage vraiment pour lui taper dessus, hein, vraiment. C'est un malheureux qui est vraiment rempli de rancœur et d'aigreur comme ça, et qui s'invente et se fabrique une opposition avec son frère, qui est pourtant pour rien dans la nature de ses humeurs, mais. Donc voilà, il va se mettre à détester son frère, mais enfin, et si on réfléchit un petit peu, on peut, moi-même, je l'ai un peu construit a posteriori l'écriture du livre, mais on peut s'imaginer que ces deux frères sont les revers d'une seule médaille.
Il a substitué au plaisir d'être aimé celui d'être redouté, écrivez-vous. Est-ce que c'est une représentation métaphorique du monde dans lequel on vit, ce roman, avec cette peur qui rôde, avec des victimes, le gardien de cage, et puis ces deux frères qui sont opposés l'un à l'autre et peut-être la même personne.
Oui, bien sûr, c'est pas... Pour bien sûr, si des précisions géographiques et temporelles ne sont pas... présente dans ce roman, néanmoins, bien sûr que c'est un récit qui prend en charge le monde dans lequel je vis aujourd'hui, hein, qui transporte ces tensions et ces problématiques, ces paradoxes et ces impossibles réconciliations dans un domaine fiction, quoi. Mm-hmm. Bien sûr, on retrouve notamment cette question de ce que vous disiez tout à l'heure à propos de d'échanger le besoin d'être aimé par celui d'être redouté. Voilà, je remarque que c'est souvent une des équations qui mène au pouvoir, quoi, de vouloir être redouté à la place d'être aimé, quoi. Faut vraiment pas s'aimer soi-même pour vouloir autant de pouvoir.
Et personne n'a de nom.
Non, parce que c'est une fiction. Ça sert à rien de faire croire aux gens qu'un tel s'appelle Serge Romanetti ou
Serge Romanetti,
ou Julien Lemoine. Julien Lemoine, je sais pas, j'invente ces noms, je sais pas qui ils sont. Mais. Bon, on pourrait inventer des noms, mais il n'y avait pas nécessité de leur inventer des noms.
Mais personne n'a de nom dans le roman, et personne n'a de nom non plus, Bertrand Belin, dans l'album, qui s'appelle Persona d'ailleurs.
Non, les noms, bon, bah. Oui, bah ça existe et c'est pas inintéressant, je dirais. C'est très important pour ceux qui les portent, quoi. C'est bien de rappeler qu'ils en ont quand même pour les singulariser. Hein.
Mais persona, c'est personne ou c'est tout le monde justement?
Bah c'est ça qui est intéressant dans ce mot. Je dirais que persona, c'est plutôt personne, hein, parce que. Non, je peux pas dire ça. C'est vrai, vous avez raison, c'est personne. Je dirais que c'est personne et tout le monde à la fois, quoi. Ça dépend de sous quelle acception on l'entend, quoi. Mais si on l'entend comme un masque, il est très difficile d'assurer que quelqu'un qui porte un masque n'est pas aussi celui qui porte le masque.
Comme dans une société, finalement, automatisée, individualiste et anonyme.
J'ai travaillé à travailler pour un travail. J'ai travaillé à travailler dans un travail. Toute une journée j'ai travaillé, toute une nuit j'ai travaillé, toute une vie j'ai travaillé dans un travail. Chien, camarade, chien. Camarade, chien.
Camarade Bertrand Belin, aujourd'hui notre invité sur RFI, c'est presque une chanson communiste. intitulé une chanson camarade.
Ah, ça me pendait au nez, ça, c'est sûr. Hein. J'ai accepté le risque, disons.
Une grande partie de la presse écoute votre album, Bertrand Belin, en ayant en tête, dans l'oreille, la revendication des Gilets jaunes. Et c'est vrai que, quand même, peu d'auteurs parlent, comme vous, de ceux qui travaillent à travailler, de ceux qui fuient, qui cherchent un pays, de ceux qui n'ont plus de pays. Je cite vos chansons, là. Mm-hmm. Vous avez conscience d'être comme ça une, je vais pas dire un porte-voix, mais d'être en phase avec ce qu'on nomme une colère, avec ce que l'on nomme un mouvement social, avec ce que l'on peut nommer aussi un état du monde.
Bien sûr, oui, j'ai conscience de ça, mais j'ai pas conscience de ça en tant qu'auteur de chansons ou écrivain, j'ai conscience de ça en tant que citoyen, quoi. Moi aussi, j'ai dû passer par les échéances électorales et aller voter, me forger une idée, me construire une opinion à travers ce buisson d'épines que se trouve être le discours politique contemporain, quoi. Et puis surtout la façon dont il est médiatisé, donc c'est très compliqué pour un citoyen d'y voir clair, de trouver ses petits. Pourquoi c'est très difficile de demander à quelqu'un de voter pour une personne qui nous parle de sortir ou d'entrer dans l'ONU, des enjeux géostratégiques planétaires. Enfin, on peut pas embrasser toutes ces questions. C'est très difficile. Il faut être un genre de spécialiste.
Il y a trop de mots dans la politique.
Il y a trop de mots. Il y a une caisse de résonance.
Trop de mots creux, peut-être.
Je pense qu'il y a un raffut, en effet, qui confine à l'assourdissement, quoi. Ouais, c'est sûr.
Voilà ce que l'on peut dire, voilà ce qu'on peut dire de vivre. Et la dernière phrase de votre album, Bertrand Belin, comme on dirait d'ailleurs la dernière phrase d'un livre. Comment s'écrit un album comme celui-ci avec une dramaturgie spécifique?
Non, il n'y a pas de projet du tout. J'écris des chansons qui me viennent, je fais pas du tout de projet, je n'ai pas d'intention particulière, simplement je suis soumis aux choses qui me traversent et qui m'arrivent dans l'esprit et qui demande à être exprimé, en passant par un bain d'humeur qui est le mien, quoi. Mais bon, non, j'ai pas de stratégie. Hein. Je vois pas de quoi je pourrais parler d'autre. Je vois pas du tout de quoi. J'aurais pas pu faire un autre disque que celui-là.
Vous pourriez parler d'amour, par exemple.
J'en parle aussi.
Oh, hein. Pas beaucoup.
Pas beaucoup, mais bon, l'amour, vous conviendrez que il s'agit pas d'en parler. Faut le faire.
Et le vivre. Vous écrivez avec ou sans la musique? C'est-à-dire, quand on est auteur-compositeur, comment ça semble, les mots, les notes? Moi qui connais rien à la musique, je sais pas comment on écrit de la musique, par exemple.
Bon, je sais pas si tout le monde fait pareil, mais moi je joue de la guitare, donc j'écris des chansons, alors j'ai toujours besoin d'un peu de musique d'avance pour poser les mots dedans, parce que les mots vont trouver leur place quand je chante, quand j'écris des chansons, quand je cherche des mots pour mes chansons, c'est des mots qui vont vivre dans la musique, quoi. Donc je les écris pas sur une page blanche, comme ça, comme sur la plage, pour les mettre dans l'eau plus tard.
Et c'est vrai pour le roman aussi, parce que j'ai l'impression qu'on entend du son en écoutant votre... Non, pas en écoutant votre roman, c'est un lapsus, en lisant votre roman.
Non, j'écoute pas de musique en écrivant... lorsque j'écris un livre, j'écoute pas de musique, j'ai besoin d'être... Enfin, je peux être entouré, je peux écrire quelques lignes au milieu d'un brouhaha, mais la musique, non, parce que la musique, ça fait, je la pratique depuis presque 40 ans, donc quand j'entends des notes de musique, bon, mon esprit, il est comme capturé, quoi. Donc, non, surtout pas écouter de musique en écrivant.
Et vous aimez le silence?
Bof, non. J'aime bien quand j'essaie de dormir, ouais. Sinon, non, ça pourrait m'angoisser un peu.
D'ici ma main au feu, un ours qui fume, je n'en crois rien. Il faut que cela soit quelqu'un ou bien quelqu'un qui suit un sentier, quelqu'un de transi, quelqu'un qui fuit, qui cherche un pays pour vivre. Vivant,
de corps et d'esprit, extrait de votre nouvel album Persona, Bertrand Belin, un poids rouge dans la nuit, un homme qui fuit. Est-ce qu'on pourrait l'appeler un migrant ?
Oui, enfin, on pourrait lui trouver ce nom-là, parce que c'est le plus commode, mais pour parler comme ça, c'est vrai, c'est un raccourci, bien sûr, et puis c'est vrai que c'est un migrant. Mais ce qui est intéressant, c'est de replacer les choses aussi dans leur histoire, dans leur profondeur humaniste, quoi. Je veux dire, il est évident que ces gens qu'on montre à la télévision sont des migrants, on peut le qualifier de tel, mais ce sont aussi des gens, on parlait tout à l'heure des noms et des prénoms qui portent des noms et des prénoms, qui ont des perspectives et qui ont des passés, des présents, des avenirs, tout comme un chacun, et des aspects de leur être qui leur sont souvent confisqués au profit d'une appellation fourre-tout, quoi.
Et qui cherchent à vivre vivant. Dire ou se taire, comment vous trouvez l'équilibre dans votre écriture?
C'est très difficile. Je pense que je n'ai pas trouvé l'équilibre. J'ai l'impression déjà de dire beaucoup trop, là.
C'est vrai?
Ouais, ça m'écœure un peu. Je m'écœure un peu tout seul. Parce que je sais bien qu'il y a une inflation de parole, que tout le monde prend la parole, que tout le monde a une opinion sur les choses. Alors, il faut bien se garder d'avoir le sentiment de pouvoir apporter une réponse, bien que on est tous en train d'en attendre une, quoi, hein, ça c'est sûr. Donc ouais, le silence, ça me tente beaucoup, hein. Là, je fais vraiment des efforts pour m'exprimer quand même.
Mais en même temps, j'ai l'impression que vos mots, aussi bien dans le roman que dans l'album, sont pesés, sentis, qu'ils ont leur poids sous votre plume, et que vous n'écrivez pas au fil de la plume, justement, si tant est qu'on puisse encore écrire au XXIe siècle avec des plumes.
Non, c'est tout est choisi. C'est vraiment de la micromécanique. Hein. C'est de la chimie, quoi. Ma façon d'aborder la question de l'expression. C'est très difficile de s'exprimer parce qu'on regrette ce qu'on dit, on a mal dit, on a dit à peu près, on n'a pas dit complètement. C'est toujours très difficile, c'est imparfait, quoi. C'est un outil formidable, le langage, et puis dont l'imperfection nous est sans cesse rappelée. Enfin, en tout cas, peut-être que en lui-même, le langage est parfait, mais l'emploi qu'on peut en faire n'est toujours qu'imparfait. C'est terrible, c'est bouleversant. Mais bon, j'ai pas trouvé d'autre voie que le langage pour me sortir de ça, quoi.
Diriez-vous, Bertrand Belin, que vous êtes un artiste engagé pour le langage, justement, pour la langue?
Alors, de ce point de vue-là, oui, je pourrais accepter ce terme d'engagé s'il concerne le monde dessiné par la parole, les lettres, la poésie, le pouvoir des mots dans le champ de la littérature et de la poésie. Oui, bien sûr, je m'engage, mais je m'engage avant tout égoïstement pour moi-même, pour me sauver ma peau, quoi. Mais
engagé politiquement, ça non, hein, vous voulez pas?
Je suis un citoyen qui vote, qui a des opinions, qui transparaissent plus ou moins, évidemment, dans mes chansons et dans mes livres, c'est indéniable, mais encore une fois, il y a des gens engagés. Bon, l'engagement, pour moi, ça signifie plus que ça, quoi, en tout cas.
Donc engagé pour la littérature. Vous avez déjà chanté en anglais? J'ai l'impression que non.
Non, à part quelques reprises de chansons que j'aime bien, mais non, sinon je n'ai pas trouvé l'intérêt de le faire pour l'instant.
Pourquoi?
Parce que je pense que je serais amené qu'à écrire des choses qui ne ressemblent pas exactement à ce que j'ai envie de dire, parce que je parle anglais, mais j'ai pas assez d'aisance, je pense, pour m'exprimer dans cette langue. Donc, je pourrais bien sûr écrire des chansons, mais me ressembleraient-elles? Non, je crois pas.
Le français vous ressemble?
Je ne sais pas, moi, les gens parlent leur langue, quoi. C'est pas moi qui ai inventé ça.
Merci Bertrand Belin. Persona, votre album est édité chez 5-7 Wagram Musique et votre roman Grand Carnivore est édité chez POL. Guillaume Ploquin, Véronique Durand, Pascal Paradou, de vive voix, à demain.